Chapitre 19 La biche argentée. Il neigeait lorsque Hermione prit son tour de garde à minuit. Les rêves de Harry étaient confus, troublants. Nagini ne cessait d'aller et venir, sortant d'abord d'une gigantesque bague à la pierre fendue, puis d'une couronne de roses de Noël. Il se réveilla à plusieurs reprises, saisi de panique, persuadé que quelqu'un l'avait appelé au loin. Imaginant que le vent qui fouettait la tente était en fait le son d'une voix ou d'un bruit de pas. Il finit par se lever dans l'obscurité et rejoignit Hermione qui s'était pelotonnée à l'entrée de la tente et lisait Histoire de la magie à la lumière de sa baguette. La neige continuait de tomber drue et elle accueillit avec soulagement sa proposition de partir tôt pour aller ailleurs. « Oui, nous choisirons un endroit plus abrité, » approuva-t-elle. Frissonnante, elle mit un sweatshirt par-dessus son pyjama. Je croyais sans cesse entendre des gens bouger dehors. Il m'a même semblé voir quelqu'un une ou deux fois. Harry, qui était lui aussi en train de passer un pull, interrompit son geste et jeta un coup d'œil au scrutoscope immobile et silencieux posé sur la table. « Je suis sûr que c'était mon imagination, » continua Hermione, apparemment nerveuse. « La neige dans le noir, ça donne l'illusion de voir des choses. » Mais peut-être vaudrait-il mieux transplaner sous la cape d'invisibilité par simple précaution. Une demi-heure plus tard, la tente repliée, Harry portant l'horcrux autour du cou, Hermione serrant contre elle son sac en perles, ils transplanèrent. L'habituelle sensation d'étouffement les engloutit. Les pieds de Harry décollèrent du sol neigeux, puis retombèrent lourdement sur ce qui semblait être une surface de terre gelée couverte de feuilles. « Où sommes-nous » demanda-t-il, contemplant une nouvelle étendue d'arbres tandis qu'Hermione ouvrait le sac en perles et commençait à en sortir les piquets de la tente. « C'est la forêt de Dean, » répondit-elle. « Je suis venue y camper un jour avec mes parents. » Ici aussi, le feuillage était enveloppé de neige et il faisait un froid glacial, mais au moins, ils étaient protégés du vent. Ils passèrent la plus grande partie de la journée sous la tente, serrés l'un contre l'autre pour se tenir chaud, devant les flammes d'un bleu éclatant qu'Hermione savait si bien faire apparaître et que l'on pouvait conserver et transporter dans un bocal. Harry avait l'impression de se remettre d'une brève mais terrible maladie, une impression renforcée par la sollicitude d'Hermione. Dans l'après-midi, de nouveaux flocons tombèrent sur eux, et même leur clairière abritée fut bientôt recouverte d'une poudre de neige fraîche. Après avoir passé deux nuits sans beaucoup de sommeil, les sens de Harry semblaient plus en alerte qu'à l'ordinaire. Tous deux avaient vu la mort de si près à Godric's Hollow que Voldemort leur semblait plus présent que jamais, plus menaçant. Lorsque le soir tomba à nouveau, Harry refusa l'offre d'Hermione de monter la garde et lui conseilla d'aller se coucher. Il installa un vieux coussin à l'entrée de la tente et s'assit. Il avait enfilé tous ses pulls les uns sur les autres, mais continuait malgré tout de frissonner. À mesure que les heures passaient, l'obscurité s'épaississait jusqu'à devenir impénétrable. Il s'apprêtait à sortir la carte du maraudeur pour regarder le point qui représentait Ginny lorsqu'il se souvint que c'était l'époque des vacances de Noël et qu'elle serait au terrier. Le plus infime mouvement paraissait amplifié dans l'immensité de la forêt. Harry savait qu'elle devait être remplie de créatures vivantes, mais il aurait souhaité qu'elle se tienne tranquille pour pouvoir distinguer leur trépignement et leur déambulation inoffensive des bruits qui annonceraient peut-être d'autres présences plus menaçantes. Il se rappela le bruissement d'une cape sur des feuilles mortes bien des années auparavant et crut entendre à nouveau avant de reprendre ses esprits et de chasser cette pensée. Leur sortilège de protection avait été efficace pendant des semaines. Pourquoi ne le serait-il plus aujourd'hui? Et pourtant, il n'arrivait pas à chasser la sensation que quelque chose cette nuit était différent. À plusieurs reprises, il sursauta le coup douloureux, car il était tombé endormi, son corps s'affaissant dans une position inconfortable contre un côté de la tente. La nuit noire, satinée, était devenue si épaisse qu'il avait l'impression d'être suspendu dans les limbes entre le départ et l'arrivée d'un transplanage. Il avait levé une main devant ses yeux pour voir s'il parvenait à distinguer ses doigts lorsque le phénomène se produisit. Une lumière brillante et argentée apparut un peu plus loin, se déplaçant parmi les arbres. Il ignorait d'où elle venait, mais elle avançait sans bruit et semblait dériver vers lui. Il se releva d'un bond, la voix coincée au fond de sa gorge, et brandit la baguette d'Hermione. Il plissa les yeux lorsque la lumière devint aveuglante, la silhouette noire des arbres se découpant devant elle. La chose continuait d'approcher. Il vit alors surgir de derrière un chêne la source de cette lumière. C'était une biche argentée, presque blanche, d'une clarté lunaire, éblouissante. Elle s'avançait prudemment, toujours silencieuse, sans laisser de traces sur la fine couche de neige poudreuse. Elle se dirigeait vers lui, dressant haut sa belle tête aux longs cils. Harry observa la créature, émerveillé non par son étrangeté, mais par son inexplicable familiarité. Il avait le sentiment d'avoir attendu sa venue, mais de l'avoir oublié jusqu'à cet instant où ils pouvaient enfin se rencontrer. La première et forte impulsion qu'il avait tout d'abord incité à appeler Hermione avait à présent disparu. Il savait, il en aurait mis sa tête à couper, qu'elle était venue pour lui et pour lui seul. Pendant un long moment, ils s'observèrent. Puis, la biche fit volte-face et s'éloigna. « Non !» dit-il, sa voix devenue rauque à force de ne plus parler. « Reviens !» Mais la biche poursuivit délibérément son chemin parmi les arbres, et bientôt, son éclat fut zébré par deux épais troncs noirs. Pendant une seconde de flottement, il hésita. La prudence murmurait « ce pourrait être une ruse, un leurre, un piège ». Mais son instinct, un instinct irrésistible, lui assurait qu'il ne s'agissait pas de magie noire, et il s'élança derrière elle. La neige crissait sous les pieds de Harry, mais la biche, elle, ne produisait aucun bruit en se faufilant parmi les arbres, car elle était uniquement constituée de lumière. Elle l'entraîna de plus en plus profondément dans la forêt, et Harry accéléra le pas, certain que lorsqu'elle s'arrêterait, elle le laisserait approcher, et il lui parlerait alors, et la voix qui émanerait d'elle lui dirait ce qu'il avait besoin de savoir. Enfin, la biche s'immobilisa. Elle tourna une fois de plus vers lui sa tête magnifique, et il courut dans sa direction, brûlant de lui poser une question, mais au moment où il ouvrait la bouche, elle disparut. Bien que l'obscurité l'ait engloutie tout entière, son image scintillante restait imprimée sur sa rétine. Elle masquait sa vision et sa clarté s'intensifia lorsqu'il baissa les paupières, lui faisant perdre ses repères. La peur le gagnait maintenant. La présence de la biche avait signifié pour lui la sécurité. « Lumos !» murmura-t-il, et l'extrémité de la baguette s'alluma. L'image de la biche s'effaçait un peu plus à chaque battement de paupières, tandis qu'il demeurait immobile à écouter les bruits de la forêt, le craquement lointain de brindilles, le léger chuintement de la neige. Allait-il être attaqué? La biche l'avait-elle attiré dans un piège? Était-ce seulement son imagination qui lui suggérait que quelqu'un se tenait à l'affût, l'observant par-delà le rayon de lumière? Il leva plus haut la baguette. Personne ne se précipita sur lui. Aucun éclair de lumière verte ne jaillit de derrière un arbre. Pourquoi, dans ce cas, la biche l'avait-elle amené jusqu'ici? Quelque chose brilla alors, et Harry se tourna aussitôt, mais il ne vit qu'une petite mare gelée, sa surface noire et craquelée, chatoyant sous ses yeux, lorsqu'il tendit la baguette pour l'examiner. Il s'avança avec précaution et regarda de plus près. La glace refléta tout d'abord son ombre déformée et le rayon lumineux de la baguette, mais tout au fond, de l'épaisse carapace d'un gris nébuleux, il aperçut soudain un objet qui scintillait. Une grande croix d'argent. Son cœur fit un bond, comme s'il remontait dans sa gorge. Il se laissa tomber à genoux, au bord de la mare, et orienta la baguette de façon à projeter le plus de lumière possible au fond de l'eau. Un éclat rouge foncé. C'était une épée, à la poignée incrustée de rubis étincelants. L'épée de Griffon d'or reposait au fond de la mare. Parvenant à peine à respirer, il la fixa des yeux. Comment était-ce possible? Comment pouvait-elle avoir atterri dans une mare en pleine forêt, si près de l'endroit où ils avaient dressé leur tente? Un mystérieux phénomène magique avait-il attiré Hermione jusqu'ici, ou la biche qu'il avait prise pour un patronus était-elle une sorte de gardienne de la mare? Ou encore, l'épée y avait-elle été déposée après leur arrivée, précisément parce qu'ils étaient là? Auquel cas, où était la personne qui avait voulu la transmettre à Harry? Il dirigea à nouveau la lumière de la baguette vers les arbres et les buissons environnants, cherchant une silhouette humaine. L'éclat d'un regard, mais il ne vit personne. Un regain de peur vint toutefois tempérer son euphorie lorsqu'il reporta son attention sur l'épée qui reposait au fond de la mare gelée. Il pointa la baguette vers la forme argentée et murmura « Accio épée !» Elle resta inerte, ce qui ne le surprit pas. Si les choses avaient dû être faciles, l'épée n'aurait pas été plongée dans les profondeurs d'une mare gelée, mais posée sur le sol, où il n'aurait eu qu'à la ramasser. Il fit le tour du cercle de glace, repensant à la dernière fois où l'épée s'était offerte à lui. Il affrontait alors un terrible danger et avait demandé de l'aide. « Aide-moi, » murmura-t-il. Mais l'épée demeura au fond de la mare, indifférente, immobile. Quelles étaient les paroles? Se demanda Harry, continuant à tourner autour de la mare. Quelles étaient ces paroles que Dumbledore avait prononcées la dernière fois qu'il avait repris l'épée?
Seul un véritable griffon d'or pouvait trouver cette épée dans le choix-peau magique.
Et quelles étaient les qualités qui définissaient un griffon d'or?
Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu.
Harry cessa de marcher autour de la mare et laissa échapper un long soupir, son haleine embuée se dispersant dans l'air glacé. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Il devait reconnaître, pour être honnête avec lui-même, qu'il avait tout de suite pensé à cette hypothèse, dès le moment où l'épée lui était apparue à travers la surface gelée. Il jeta un nouveau coup d'œil vers les arbres qui l'entouraient, mais maintenant, il était convaincu que personne ne l'attaquerait. Ils en auraient eu tout le loisir pendant qu'il marchait seul dans la forêt ou qu'il examinait la mare. S'il retardait encore le moment d'agir, c'était simplement parce que ce qui l'attendait à présent n'avait rien de très enthousiasmant. Les doigts engourdis, il entreprit d'enlever ses diverses couches de vêtements. Il n'était pas sûr, pensa-t-il avec mélancolie, que la hardiesse et la force qu'on prêtait au preux chevalier de Gryffondor aient grand-chose à voir là-dedans. Sauf, si l'on considérait comme chevaleresque, le fait de ne pas avoir appelé Hermione pour qu'elle y aille à sa place. Un hibou ulula quelque part, tandis qu'il se déshabillait. Et avec un pincement au cœur, il songea à Edwige. Il frissonnait à présent, ses dents claquant horriblement. Mais il continua à se déshabiller jusqu'à ce qu'il se retrouve en caleçon et pieds nus dans la neige. Il posa sur ses vêtements entassés la bourse qui contenait sa baguette cassée, la lettre de sa mère, le fragment du miroir de Sirius et le vieux vif d'or, puis pointa vers la glace la baguette d'Hermione. « Diffindo !» Un craquement retentit dans le silence, semblable à la détonation d'une balle de fusil. La surface de la mare se brisa et des morceaux de glace sombre se balancèrent sur l'eau clapotante. Autant que Harry pouvait en juger, la mare n'était pas très profonde, mais pour aller chercher l'épée, il devrait quand même s'immerger complètement. Réfléchir plus longtemps à la tâche qui l'attendait ne la rendrait pas plus facile et ne réchaufferait pas la température de l'eau. Il s'avança donc jusqu'au bord et posa par terre la baguette d'Hermione toujours allumée. Puis, essayant de ne pas imaginer le froid encore plus glacé qui l'attendait ou les tremblements qui allaient bientôt le secouer de la tête aux pieds, il sauta dans la mare. Ce fut comme si tous les pores de sa peau s'étaient mis à protester à grands cris. L'air même que contenaient ses poumons paraissait avoir gelé lorsque l'eau glacée lui arriva aux épaules. Il pouvait à peine respirer. Parcouru de tremblements si violents qu'il projetait des vaguelettes par-dessus le bord de la mare, il chercha à tâtons de ses pieds engourdis la lame de l'épée. Il ne voulait plonger au fond qu'une seule fois. Harry, haletant, frémissant, repoussait de seconde en seconde le moment où il s'immergerait totalement. Enfin, il se persuada qu'il ne pouvait plus reculer et, rassemblant tout son courage, il plongea. Le froid se transforma en douleur, l'attaqua comme un feu. Son cerveau lui-même semblait avoir gelé tandis qu'il s'enfonçait dans l'eau sombre et tendait la main vers le fond à la recherche de l'épée. Ses doigts se refermèrent autour de la poignée qu'il tira vers lui. Quelque chose alors lui enserra étroitement le cou. Il pensa à des herbes aquatiques, bien qu'il n'eût rien senti contre sa peau lorsqu'il avait plongé, et leva sa main libre pour se libérer. Mais ce n'était pas une herbe. La chaîne de l'horcrux s'était contractée autour de sa gorge et l'étranglait lentement. Harry donna de grands coups de pied pour essayer de remonter à la surface. Mais il ne parvint qu'à se propulser contre la paroi rocheuse de la mare. Se débattant, suffoquant, il attrapa la chaîne à tâtons, ses doigts gelés, incapables de la desserrer. De petites lumières jaillissaient à présent dans sa tête, et il sombra. Il n'y avait plus rien à faire. Il ne pouvait plus rien tenter, et les bras qu'il sentit se refermer autour de sa poitrine étaient sûrement ceux de la mort. Étouffant, secoué de haut le cœur, trempé et glacé, comme jamais il ne l'avait été dans sa vie, il reprit connaissance à plat ventre sur la neige. Quelque part, à proximité, quelqu'un d'autre haletait, toussait, trébuchait. Hermione était à nouveau venue à son secours, comme lorsque le serpent l'avait attaqué. Pourtant, il n'avait pas l'impression que c'était elle, à en juger par la toux caverneuse et la lourdeur des pas. Harry n'eut pas la force de relever la tête pour voir qui était son sauveur. Il put simplement porter une main tremblante à son cou et sentit l'endroit où la chaîne du médaillon s'était profondément enfoncée dans sa chair. L'horcrux n'était plus là. Quelqu'un l'en avait libéré. Il entendit alors au-dessus de sa tête une voix pantelante. « Tu es dingue ou quoi ?» Seul le choc qu'il éprouva au son de cette voix pouvait redonner à Harry suffisamment d'énergie pour se relever. Parcouru de violents frissons, il se mit debout, vacillant. Devant lui se tenait Ron, habillé de pied en cap, mais trempé jusqu'aux os. Ses cheveux plaqués contre son visage, l'épée de Gryffondor dans une main, l'horcrux dans l'autre, pendant au bout de sa chaîne brisée. Ron leva le médaillon qui se balança, d'avant en arrière à l'extrémité de sa chaîne raccourcie, comme dans une parodie d'hypnose. « Par tous les diables !» halta Ron. « Pourquoi n'as-tu pas enlevé cette chose avant de plonger ?» Harry ne put répondre. La biche argentée n'était plus rien, comparée à la réapparition de Ron. Il n'arrivait pas à y croire. Tremblant de froid, il saisit ses vêtements, toujours entassés au bord de la mare, et s'habilla. Tout en enfilant ses pulls les uns après les autres, Harry ne cessait de dévisager Ron, comme s'il s'attendait plus ou moins à ce qu'il disparaisse chaque fois qu'il le quittait des yeux. Et pourtant, il devait bien être réel. Il venait de plonger dans la mare. Il lui avait sauvé la vie. « Alors, c'était toi ?» bredouilla enfin Harry, claquant des dents, la voix plus faible qu'à l'ordinaire en raison de sa quasi-strangulation. « Oui, » répondit Ron, un peu déconcerté. « La biche, c'était toi ?»«
Quoi ?
Non, bien sûr que non. Tu croyais que c'était ton patronus ?»«
Le mien, c'est un cerf. »«
Ah oui, c'est vrai. Je me disais bien qu'il paraissait différent. Pas de ramure. » Harry accrocha la bourse de Hagrid autour de son cou, enfila un dernier pull, se baissa pour ramasser la baguette d'Hermione et regarda à nouveau Ron.
« Mais comment se fait-il que tu sois ici ?»
Apparemment, Ron aurait souhaité que ce point ne soit évoqué que plus tard, ou peut-être même pas du tout.
« Eh bien, je suis revenu.
Fille, il s'éclaircit la voix,
si tu veux toujours de moi. »
Pendant le silence qui suivit, l'évocation du départ de Ron sembla dressée entre eux comme un mur. Mais à présent, il était là. Il était de retour. Et il avait sauvé Harry.
Ron baissa les yeux et regarda ses mains. L'espace d'un instant, il parut surpris de voir ce qu'il tenait entre ses doigts.
« Oui, je l'ai sorti de l'eau, » dit-il inutilement en levant l'épée pour permettre à Harry de mieux la contempler.
« C'était pour ça que tu avais plongé, non ?»«
Oui, » répondit Harry, « mais je comprends pas comment es-tu venu ici. Comment nous as-tu trouvé ?»«
Longue histoire, » répliqua Ron. « Il y a des heures que je vous cherche. C'est une grande forêt. » Je me disais que j'allais faire un petit somme sous un arbre en attendant le jour. Et quand j'ai vu cette biche arriver, et toi qui la suivais,
tu n'as remarqué personne d'autre ?
Non,
dit Ron. Mais il hésita, lançant un coup d'œil en direction de deux arbres qui se dressaient côte à côte à quelques mètres d'eux.
Je crois avoir vu quelque chose bouger là-bas, mais c'était au moment où je courais vers la mare. Tu venais de disparaître dans l'eau et je ne te voyais plus revenir à la surface, alors je n'allais pas faire un détour pour eux.
Hey! Harry s'était déjà précipité vers l'endroit que Ron lui indiquait. Les deux chênes avaient poussé tout près l'un de l'autre. À hauteur d'homme, leur tronc n'était séparé que de quelques centimètres, une cachette idéale pour voir sans être vu. Il n'y avait cependant pas de neige autour des racines, et Harry ne distingua aucune empreinte. Il retourna vers Ron, qui l'attendait, tenant toujours dans ses mains l'épée et leur crux.
« Il y a quelque chose ? » demanda-t-il.
« Non, » répondit Harry.
« Alors comment l'épée est-elle arrivée dans cette mare ?
La personne qui a créé le Patronus a dû l'y jeter. » Ils contemplèrent tous deux l'épée ouvragée, sa poignée incrustée de rubis, luisant légèrement à la lumière de la baguette d'Hermione.
« Tu crois que c'est la vraie ?» demanda Ron.
Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, non ? Répondit Harry. L'horcruxe se balançait toujours au bout de la main de Ron. Le médaillon tressaillait légèrement. Harry savait que la chose qu'il contenait s'agitait à nouveau. Cette chose qui avait senti la présence de l'épée et avait essayé de le tuer plutôt que de le laisser s'en emparer. Mais ce n'était pas le moment de se lancer dans de grandes discussions. Pour l'instant, il était urgent de détruire l'horcrux une bonne fois pour toutes. Harry jeta un regard alentour, tenant haut la baguette d'Hermione, et repéra l'endroit qui convenait. Un rocher, relativement plat, à l'ombre d'un sycomore. « Viens, » dit-il. Suivi de Ron, il s'en approcha, dégagea la neige qui couvrait la surface de la pierre, et tendit la main pour prendre l'horcrux. Mais lorsque Ron voulut également lui donner l'épée, Harry la refusa d'un hochement de tête.
« Non, c'est toi qui devrais le faire.
Moi ?» s'étonna Ron, choqué.
« Et pourquoi ?»«
Parce que tu es allé chercher l'épée au fond de la mare. Je crois donc que cette tâche te revient. » Ce n'était pas par bienveillance ou générosité. De même qu'il avait tout de suite su que la biche n'était pas dangereuse, il savait aussi que c'était à Ron de brandir la lame. Dumbledore avait au moins appris quelque chose à Harry au sujet de certaines formes de magie ou de l'incalculable pouvoir de certains actes.
« Je vais l'ouvrir, » dit Harry, « et toi, tu le transperceras tout de suite, d'accord ? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur ne se laissera pas détruire sans combattre. Le fragment de Géduzor qui se trouvait dans son journal intime a essayé de me tuer.
« Mais comment vas-tu l'ouvrir ? » demanda Ron. Il paraissait pétrifié.
Je vais lui demander de s'ouvrir tout seul en lui parlant fourche-langue, expliqua Harry.
La réponse lui était venue si facilement qu'il avait l'impression de l'avoir toujours connue au fond de lui.
Peut-être son récent face-à-face avec Nagini lui avait-il permis d'en prendre conscience. Il regarda le S en forme de serpent, serti de pierres vertes étincelantes sur le médaillon. On pouvait facilement se le représenter comme un minuscule reptile levé sur la pierre glacée.
« Non, » dit Ron, « non, ne l'ouvre pas, je suis sérieux. »«
Pourquoi ?» répondit Harry. « Débarrassons-nous de cette horreur, ça fait des mois que... »«
Je peux pas, Harry, je suis sérieux.
Fais-le, toi.
Mais pourquoi ?»«
Parce que ce truc est mauvais pour moi, »
répondit Ron, en reculant pour s'éloigner du médaillon posé sur le rocher.
« Je ne peux pas. Je ne cherche pas d'excuses à ma conduite, mais il m'affecte beaucoup plus que toi ou Hermione. Il me faisait penser à des choses que de toute façon j'avais déjà en tête, sauf qu'il les rendait encore pires. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'enlevais, je reprenais mes esprits et ensuite, quand je devais remettre ce fichu massin autour de mon cou, je ne peux pas faire ça, Harry. »
Il s'était écarté du rocher, hochant la tête, l'épée traînant à son côté.
« Tu peux y arriver, » insista Harry. « Tu le peux, c'est toi qui as l'épée, c'est à toi qu'il revient de t'en servir, je le sais. S'il te plaît, débarrasse-nous de ça, Ron !»
Entendre prononcer son nom sembla agir comme un stimulant. Ron déglutit, puis, respirant toujours profondément, il revint près du rocher.
« Dis-moi quand, » demanda-t-il d'une voix rauque.
« À trois, » répondit Harry. Harry tourna son regard vers le médaillon, plissa les yeux et se concentra sur la lettre S, imaginant un serpent tandis qu'il entendait quelque chose remuer à l'intérieur, comme un cafard pris au piège. Il aurait pu en éprouver une certaine pitié si la marque que la chaîne avait laissée autour de son cou n'était pas restée aussi cuisante.
1, 2, 3, s'ouvre-toi!
Le dernier mot sortit de sa bouche comme un sifflement, un grondement, et les volets d'or du médaillon s'ouvrirent largement avec un petit clic. À l'intérieur, derrière chacun des deux ovales de verre semblables à de petites fenêtres, un œil cligna sombre et charmeur, comme l'étaient les yeux de Tom Jedusor avant qu'il ne les transforme en deux fentes écarlates.
« Transperce-le !» dit Harry, qui maintenait le médaillon immobile sur le rocher. Ron leva l'épée dans ses mains tremblantes. La pointe de la lame resta suspendue au-dessus des deux yeux qui tournaient frénétiquement en tous sens. Harry plaqua le médaillon contre la pierre, se préparant, imaginant déjà un flot de sang qui jaillirait des deux ovales vides. Une voix sifflante s'éleva alors de l'horcrux.
« J'ai vu dans ton cœur, et ton cœur est mien. »
« Ne l'écoute pas !» lança Harry d'une voix dure. « Transperce-le !»«
J'ai vu tes rêves, oh, Ronald Wesley, et j'ai vu tes peurs. Tout ce que tu désires est possible, mais tout ce que tu crains est également... »«
Transperce-le !» hurla Harry, sa voix résonnant sous le feuillage des arbres. La pointe de l'épée trembla, et Ron fixa les yeux de Jedusor.
« À moi d'aimer, depuis toujours, par une mère qui rêvait d'avoir une fille, le moins aimé, aujourd'hui par celle qui préfère ton ami, toujours en retrait, éternellement dans l'ombre. »«
Ron, transperce-le tout de suite !»
beugla Harry. Il sentait le médaillon frémir sous ses doigts et redoutait ce qui allait suivre.
Ron leva l'épée encore plus haut et les yeux de Jedusor brillèrent alors d'un éclat écarlate. Jaillissant des deux ovales de verre, jaillissant des deux yeux, les têtes de Harry et d'Hermione, bizarrement déformées, enflèrent comme deux bulles grotesques.
Ron poussa un cri et recula devant les deux silhouettes qui s'élevaient du médaillon en s'épanouissant comme des fleurs. D'abord la poitrine, puis la taille, puis les jambes. Elles restèrent là, côte à côte, debout, dans leur crux, tels deux arbres à la racine commune, oscillant au-dessus de Ron et du véritable Harry qui avait lâché le médaillon, devenu soudain brûlant, comme chauffé à blanc.
« Ron !» hurla-t-il. Mais l'image de Harry Jedusor parlait à présent avec la voix de Voldemort, et Ron, hypnotisé, fixait son visage.
« Pourquoi es-tu revenu ? Nous étions beaucoup mieux sans toi, beaucoup plus heureux. content de ton absence. Nous nous moquions de ta stupidité, de ta lâcheté, de ta prétention. De ta prétention.
Répéta en écho l'image d'Hermione Gédusor, plus belle, mais aussi plus terrible que la véritable Hermione. Elle se balançait, parlant d'une voix caquetante, devant Ron, horrifié, cloué sur place, l'épée pendante inutilement à son côté.
« Qui donc pourrait te regarder? Qui donc pourrait jamais te remarquer à côté de Harry Potter? Qu'as-tu jamais réussi à accomplir ?» Comparé à l'élu, qui es-tu comparé au survivant ?
Ron, transperce-le ! Transperce-le ! Hurla Harry, mais Ron ne bougea pas. Il avait écarquillé ses yeux, dans lesquels se reflétaient le Harry et l'Hermione Gédusor, leurs cheveux dansant comme des flammes, leurs regards rougeoyants, leurs voix aiguës se mêlant en un duo maléfique.
« Ta mère a avoué !»
reprit Harry Gédusor d'un ton narquois, accompagné des ricanements de la fausse Hermione.
« Qu'elle aurait préféré n'avoir comme fils, qu'elle serait ravie de faire l'échange. Qui ne le préférerait pas? Quelle femme te choisirait? Tu n'es rien face à lui !»
susurra Hermione Gédusor. Elle s'étira alors comme un serpent, puis s'enroula autour de Harry Gédusor, l'enlaçant étroitement, et leurs lèvres se joignirent. Devant eux, le visage de Ron s'était rempli d'angoisse. Il leva haut l'épée, les bras tremblants. « Vas-y, Ron !» s'exclama Harry. Ron se tourna vers lui, et Harry crut voir un reflet écarlate dans ses yeux. « Ron ! La lame de l'épée étincela et s'abattit !» Harry se jeta de côté. Un fracas métallique retentit, suivi d'un grand cri qui se prolongea. Il fit volte-face, glissant sur la neige, sa baguette prête, mais il n'y avait rien à combattre. Les doubles monstrueux de lui-même et d'Hermione avaient disparu. Il n'y avait plus que Ron, debout, tenant mollement l'épée dans sa main, les yeux fixés sur les restes brisés du médaillon. Lentement, Harry revint vers lui, ne sachant plus très bien que faire ou que dire. Ron respirait profondément. Il n'y avait plus la moindre lueur écarlate dans ses yeux qui avaient retrouvé leur couleur bleue habituelle. Ils étaient aussi très humides. Harry se pencha, faisant semblant de n'avoir rien remarqué, et ramassa leur crux fracassé. Ron avait transpercé les deux ovales de verre. Les yeux de Gédusor avaient disparu et la soie attachée qui recouvrait le fond du médaillon fumait légèrement. La chose qui vivait dans leur crux s'était évanouie. Tourmenté Ron avait constitué son dernier acte. Ron lâcha l'épée qui tomba avec un bruit métallique. Il s'était affaissé sur les genoux, la tête dans les bras. Il tremblait de tout son corps. Mais Harry comprit que le froid n'y était pour rien. Il fourra dans sa poche le médaillon brisé, s'agenouilla auprès de Ron et posa précautionneusement une main sur son épaule. Le fait que Ron ne cherche pas à se dégager lui parut un bon signe. « Après ton départ, » dit-il à voix basse, soulagé que Ron se soit caché le visage. « Elle a pleuré pendant une semaine, sans doute davantage, mais elle ne voulait pas que je m'en aperçoive. Pendant longtemps, le soir, nous ne nous sommes pas adressés la parole. Sans toi, il ne put achever sa phrase. Et c'était seulement maintenant, avec le retour de Ron, que Harry réalisait pleinement ce que leur avait coûté son absence. « Elle est comme une sœur pour moi, » poursuivit-il. « Je l'aime à la manière d'une sœur, et je pense qu'elle ressent la même chose de son côté. C'est comme ça depuis toujours. Je croyais que tu le savais. » Ron ne répondit pas. Mais il détourna la tête et s'essuya bruyamment le nez sur sa manche. Harry se releva, puis s'approcha de l'endroit quelques mètres plus loin, où Ron avait jeté précipitamment son sac à dos par terre pour courir vers la mare et sauver Harry de la noyade. Il le hissa sur ses propres épaules et retourna vers Ron, qui se remettait péniblement debout. Il avait les yeux rougis, mais avait repris contenance.
« Je suis désolé, »
dit-il d'une voix sourde.
« Je suis désolé d'être parti. Je sais que je me suis conduit comme un... comme un... »
Il scruta l'horizon comme s'il espérait qu'un mot suffisamment fort allait fondre sur lui et s'imposer d'office. « On peut dire que tu t'es rattrapé cette nuit, » assura Harry. « Aller chercher l'épée, détruire l'horcrux, me sauver la vie. »
« Tu me fais apparaître plus cool que je ne suis, »
marmonna Ron. « Ce genre de choses paraissent toujours plus cool, comme tu dis, qu'elles ne l'ont vraiment été, » répliqua Harry. « C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre pendant des années. »
D'un même mouvement, ils s'avancèrent l'un vers l'autre et s'étreignirent, Harry serrant le dos toujours trempé du blouson de Ron.
« Maintenant, » dit Harry,
après qu'ils eurent relâché leur étreinte, « il ne nous reste plus qu'à retrouver la tente. »
Mais ce ne fut pas si difficile qu'il aurait pu le croire. Alors que la marche à travers la forêt dans le sillage de la biche lui avait semblé longue, le trajet de retour aux côtés de Ron se révéla étonnamment court. Harry était impatient de réveiller Hermione et il éprouva une fébrilité grandissante lorsqu'il entra dans la tente, Ron traînant un peu derrière lui.
À l'intérieur, l'atmosphère paraissait merveilleusement tiède, après la mare gelée et la forêt sous la neige. Le seul éclairage était fourni par les flammes couleur de jacinthe qui continuaient de luire dans une coupe posée par terre. Hermione était profondément endormie, pelotonnée sous les couvertures, et Harry dut l'appeler à plusieurs reprises avant qu'elle bouge enfin.
« Hermione ?» Elle se retourna, puis se redressa brusquement, dégageant les cheveux qui lui tombaient sur le visage.
« Qu'est-ce qu'il y a ? Harry, ça va ?»«
Tout va très bien. Mieux que bien. Je suis en pleine forme. Nous avons de la visite. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui ?»
Elle vit Ron qui se tenait devant elle, l'épée à la main, ses vêtements ruisselants sur le tapis usé. Harry recula dans un coin sombre, fit glisser de ses épaules le sac à dos de Ron et essaya de se fondre dans la toile de la tente. Hermione sortit de son lit et s'avança comme une somnambule en direction de Ron, le regard fixé sur son visage blafard. Elle s'arrêta juste devant lui, les lèvres légèrement entrouvertes, les yeux écarquillés. Ron lui adressa un pâle sourire plein d'espoir et leva à demi les bras. Mais Hermione se précipita soudain sur lui et martela à coups de poing chaque centimètre carré de son corps partout où elle pouvait l'atteindre.
« Aïe, ouille, mais arrête, mais que Hermione, ouille, Ronald Wesley, espèce de parfait crétin !»
Elle ponctua chaque mot d'un nouveau coup. Ron battit en retraite, se protégeant le visage, alors qu'Hermione continuait d'avancer sur lui.
« Tu reviens ici, en douce, après des semaines et des semaines !»«
Où est ma baguette ?» Elle semblait prête à l'arracher de force des mains de Harry, mais celui-ci réagit instinctivement.
« Protego !»
Le bouclier invisible se dressa entre Ron et Hermione et sa force la projeta à terre. Recrachant des cheveux qui étaient entrés dans sa bouche, elle se releva d'un bond.
« Hermione !» dit Harry. « Calme-toi !»« Je ne me calmerai pas »
hurla-t-elle. Jamais encore il ne l'avait vue perdre à ce point son sang-froid. Elle semblait en proie à une crise de démence.
« Rends-moi ma baguette ! Rends-la-moi !
Hermione, s'il te plaît !
Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire !
Harry Potter ! S'écria-t-elle d'une voix suraiguë.
Ne t'en avise surtout pas ! Rends-la-moi immédiatement !
Et toi ? Elle pointa sur Ron un doigt accusateur. C'était comme une malédiction, et Harry ne fut pas étonné de voir Ron reculer de plusieurs pas.
« J'ai couru après toi ! Je t'ai appelé ! Je t'ai supplié de revenir ! »
Je sais, dit Ron. Hermione, je suis désolé, vraiment je suis...
Ah, tu es désolé !
Elle éclata de rire, d'un rire aigu, incontrôlable. Ron se tourna vers Harry en quête de secours, mais celui-ci lui répondit par une grimace impuissante.
Tu reviens après des semaines, et tu penses qu'il te suffit de dire désolé pour que tout s'arrange ?
Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? S'écria Ron. Harry fut content qu'il se défende.
« Oh, je ne sais pas !»
vociféra Hermione avec une ironie redoutable.
« Cause-toi la cervelle !
Ça ne devrait pas te prendre plus de 2 ou 3 secondes !»« Hermione !» intervint Harry, qui considérait cette dernière réplique comme un coup bas. « Il vient de me sauver là !»«
Je m'en fiche » hurla-t-elle. « Je me fiche de ce qu'il a fait, des semaines et des semaines ! On aurait pu tout aussi bien mourir !»«
Je savais que vous n'étiez pas mort !» beugla Ron en dominant pour la première fois la voix d'Hermione. Il s'approcha aussi près que lui permettait le bouclier dressé entre eux. « On ne parle que de Harry dans la gazette et à la radio. Il vous cerce partout, avec toutes les rumeurs et les histoires de fous qui circulent. Je l'aurais su tout de suite si vous étiez mort. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. »«
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?»
Sa voix était devenue si aiguë que bientôt, seules les chauves-souris pourraient encore l'entendre, mais elle avait atteint un tel degré d'indignation qu'elle fut momentanément incapable de parler, et Ron saisit l'occasion. « J'ai voulu revenir dès l'instant où j'ai transplané, mais je suis tombé en plein sur un gang de rafleurs, Hermione, et je ne pouvais plus aller nulle part. »«
Un gang de quoi ?»
demanda Harry, tandis qu'Hermione se jetait dans un fauteuil bras et jambes si étroitement croisés qu'on se demandait si elle ne mettrait pas plusieurs années à les déplier.
Des rafleurs, répondit Ron.
Il y en a partout. Ce sont des gangs qui essayent de gagner de l'or en arrêtant les némoldus et les traîtres à leur sang. Le ministère offre une récompense pour chaque capture. J'étais tout seul, et on voit bien que je suis en âge d'aller à l'école, alors ils se sont excités en pensant que j'étais peut-être un émoldu en fuite. Il a fallu que je trouve très vite quelque chose à leur répondre pour éviter qu'ils me traînent au ministère.
Qu'est-ce que tu leur as dit ?
Que j'étais Stan Rocade. C'est la première personne à laquelle j'ai pensé.
Et ils t'ont cru ?
Bah, il n'était pas très malin. L'un d'eux était à moitié troll, d'après l'odeur.
Ron jeta un coup d'œil à Hermione, espérant que cette petite note d'humour aurait un effet apaisant, mais son visage resta de marbre, ses bras et ses jambes toujours serrés comme dans un nœud.
En tout cas, ils se sont disputés pour savoir si, oui ou non, j'étais Stan. Ma ruse était assez pitoyable, je dois le reconnaître, mais j'étais seul, contre 5, et ils m'avaient pris ma baguette. Puis deux d'entre eux se sont mis à se battre. Et j'ai profité de la distraction des autres pour donner un coup dans le ventre de celui qui me tenait, et j'ai pu lui arracher sa baguette, et j'ai jeté un sortilège de désarmement au type qui m'avait pris la mienne, et j'ai aussitôt transplané. Mais ce n'était pas très réussi, et je me suis encore désarticulé.
Ron leva sa main droite pour montrer 2 doigts sans ongles.
Hermione haussa les sourcils d'un air glacial. « Ah, je suis arrivé à quelques kilomètres de l'endroit où nous avions campé, mais vous étiez déjà parti. »«
Oh, quelle histoire palpitante !»
lança Hermione du ton dédaigneux qu'elle adoptait quand elle voulait blesser quelqu'un.
« Tu as dû être tout simplement terrifié. Nous, pendant ce temps-là, nous sommes allés à Godric's Hollow. Et voyons, qu'est-ce qui s'est passé, déjà Harry ? Ah oui, je me souviens, oui, le serpent de tu sais qui nous attendait. Ouais. Il a failli nous tuer tous les deux. Ensuite, tu sais qui lui-même est arrivé. Et nous avons réussi à lui échapper à une seconde près. »
« Quoi ?» s'exclama Ron en les regardant bouche bée. Mais Hermione ne lui prêta aucune attention.
« Tu imagines, Harry, perdre 2 ongles, oh, voilà qui relativise tout ce que nous avons subi, non ?»«
Hermione, » dit Harry à voix basse, « Ron vient de me sauver la vie. »
Elle sembla ne pas l'avoir entendue.
« Ah, il y a quand même une chose que je voudrais savoir, »
reprit-elle. Les yeux fixés sur un point imaginaire situé à 30 centimètres au-dessus de la tête de Ron.
« Comment t'y es-tu pris exactement pour nous retrouver ce soir ? C'est important. Quand nous le saurons, nous pourrons faire ce qu'il faut pour éviter les visiteurs indésirables. »
Ron lui lança un regard noir, puis sortit de la poche de son jean un petit objet en argent.
« J'ai utilisé ceci. »
Hermione dut tourner les yeux vers lui pour voir ce qu'il leur montrait.
« Le déluminateur ?»
s'étonna-t-elle, si surprise qu'elle en oublia de paraître glaciale et féroce.
« Il ne se contente pas d'allumer et d'éteindre les lumières, » poursuivit Ron. « Je ne sais pas comment il fonctionne, ni pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, et pas à un autre, puisque de toute façon, depuis que j'étais parti, j'avais envie de revenir. En tout cas,
J'étais en train d'écouter la radio, le matin de Noël, de très bonne heure, et tout d'un coup, j'ai entendu ta voix. » Il regardait Hermione.
« Tu m'as entendu à la radio ? »
demanda-t-elle incrédule. « Non, je t'ai entendu dans ma poche. Ta voix venait de là. » Il montra à nouveau le déluminateur.
« Et qu'est-ce que je disais, exactement ?»
interrogea Hermione d'un ton qui hésitait entre le scepticisme et la curiosité. « Mon nom, Ron. » Et tu as ajouté quelque chose à propos d'une baguette. Le visage d'Hermione se colora d'un rouge flamboyant. Harry se souvenait. C'était la première fois que le nom de Ron avait été prononcé à haute voix par l'un d'eux depuis le jour où il les avait quittés. Et Hermione l'avait cité lorsqu'ils avaient parlé de réparer la baguette de Harry. « Alors, je l'ai sorti de ma poche ?» continua Ron, en contemplant le déluminateur. Il était comme d'habitude, mais j'étais sûr de t'avoir entendu. Je l'ai actionné, et la lumière s'est éteinte dans ma chambre, mais une autre s'est allumée juste devant la fenêtre. Ron leva son autre main et pointa le doigt devant lui, le regard concentré sur quelque chose que ni Harry ni Hermione ne pouvaient voir. C'était une boule lumineuse, bleuâtre, qui semblait vibrer comme la lumière autour d'un port au loin, vous voyez ?
« Oui, » répondirent machinalement Harry et Hermione d'une même voix.
« Et j'ai tout de suite su que c'était ce que je cherchais, » reprit Ron. « J'ai ramassé mes affaires et j'ai tout emballé dans mon sac à dos et je suis descendu dans le jardin. » La boule de lumière flottait en l'air. Elle m'attendait et quand je suis sorti, elle s'est éloignée par petits bonds. Je l'ai suivie derrière la cabane à outils et là, elle est entrée en moi. « Pardon ?» dit Harry, persuadé de n'avoir pas bien entendu. « Elle a flotté vers moi, » expliqua Ron en décrivant le mouvement de la boule d'un geste de l'index, « droit sur ma poitrine, et ensuite elle est entrée en moi. Elle était ici. » Il montra un point proche de son cœur. « Je la sentais. Elle était chaude. Et une fois qu'elle était en moi, j'ai su ce que je devais faire. J'ai su qu'elle m'emmènerait là où je voulais aller. Alors j'ai transplané et suis arrivé au flanc d'une colline. Il y avait de la neige partout. « C'était là que nous étions, » dit Harry. « Nous y avons passé deux nuits, et la deuxième nuit, j'ai eu sans cesse l'impression d'entendre quelqu'un bouger et appeler dans l'obscurité. Ben, « C'était moi ! Mais vos sortilèges de protection ont bien fonctionné. Je n'arrivais pas à vous voir ni à vous entendre. Pourtant, j'étais sûr que vous n'étiez pas loin. Et j'ai fini par m'allonger dans mon sac de couchage. Et j'ai attendu que vous apparaissiez. Je pensais que vous seriez bien obligé de vous montrer quand vous démonteriez la tente.
« En fait, non, » dit Hermione. « Par précaution, on a transplané sous la cape d'invisibilité et on est parti de très bonne heure parce que, comme te l'a expliqué Harry, nous avions entendu quelqu'un bouger dans les environs.
Bon, »« En tout cas, tu as resté toute la journée sur cette colline, » reprit Ron.
« J'espérais toujours vous voir apparaître, mais la nuit est tombée et j'ai compris que j'avais dû vous rater. J'ai actionné à nouveau le déluminateur, la lumière bleue a jailli. Elle est entrée en moi et j'ai transplané et je suis arrivé ici, dans cette forêt. Je ne parvenais toujours pas à vous retrouver et je suis resté là en espérant que l'un de vous finirait par mettre le nez dehors. C'est ce que Harry a fait, bien sûr. J'ai d'abord aperçu la biche.
« Tu as aperçu quoi ?»
l'interrompit brusquement Hermione. Ils lui expliquèrent ce qui s'était passé et à mesure qu'il racontait l'histoire de la biche argentée et de l'épée dans la mare, Hermione les regardait alternativement, les sourcils froncés, l'esprit si concentré qu'elle en oublia de serrer bras et jambes contre elle.
« C'était sûrement un patronus, » s'exclama-t-elle. « Vous n'avez pas vu qu'il avait créé ? Il n'y avait personne ? Et le patronus t'a amené jusqu'à l'épée ? J'ai du mal à y croire. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite ?»
Ron lui raconta comment il avait vu Harry sauter dans l'eau et avait attendu qu'il remonte à la surface. S'apercevant qu'il se passait quelque chose d'anormal, il avait plongé pour le sauver avant de retourner prendre l'épée. Parvenu au moment de l'ouverture du médaillon, il hésita et ce fut Harry qui poursuivit son récit. Quand il a été ouvert, Ron l'a transpercé à coups d'épée.
« Et il a été détruit simplement comme ça ?»
murmura Hermione.
Oh, et il a crié, dit Harry en jetant un vague coup d'œil à Ron. Tiens, il lança le médaillon sur les genoux d'Hermione qui le prit avec des gestes précautionneux et examina les ovales de verre fracassés. Estimant qu'il pouvait à présent le faire sans danger, Harry annula le charme du bouclier en agitant la baguette d'Hermione et se tourna vers Ron.
Tu n'as pas dit que tu avais échappé aux rafleurs en emportant une de leurs baguettes ?
Quoi ?
Répondit Ron, qui n'avait cessé de regarder Hermione pendant qu'elle étudiait le médaillon.
Ah oui, oui, oui.
Il détacha une boucle de son sac à dos et sortit d'une poche latérale une petite baguette de bois sombre.
La voilà.
Oh, donc tu dis que c'était toujours utile d'en avoir une en réserve. Et tu avais raison, assura Harry en tendant la main. La mienne est cassée.
Tu plaisantes ?
S'exclama Ron, mais au même moment Hermione se leva et il parut à nouveau inquiet. Elle rangea leur crux terrassé dans le sac en perles, puis remonta dans la couchette supérieure d'une paire de lits superposés et s'allongea sans ajouter un mot. Ron donna à Harry la nouvelle baguette.
Finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Tu ne pouvais pas espérer mieux,
murmura Harry.
C'est vrai, répondit Ron. Ça aurait pu être pire. Tu te souviens quand elle m'a jeté les oiseaux à la tête ?
Il n'est pas totalement exclu que je recommence,
répliqua la voix étouffée d'Hermione sous ses couvertures. Et Harry vit Ron esquisser un sourire tandis qu'il sortait de son sac à dos son pyjama violet.